RCF.
Bonjour amis auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Alors aujourd'hui, nous retrouvons notre ami Jean-Pierre André, fidèle des fidèles de notre émission. Bonjour mon cher Jean-Pierre.
Bonjour Bernard.
Alors vous êtes historien, conférencier, membre de la Société archéologique du Berry. Il me souvient aussi d'une conférence où vous êtes intervenu sur le thème « Bourges de la Grande Guerre ». C'est bien cela, je me souviens.
Oui.
C'était au muséum.
Oui, je m'en souviens aussi.
Je m'en souviens très très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je vous soumets une fois de plus à la question, mon cher Jean-Pierre. En effet, je souhaite consacrer cette émission sur le thème « Berrichon-Berruyer, civil pendant la Grande Guerre ». Il y a un certain nombre de témoignages, mais véritablement, ce n'est pas toujours évident à percevoir, parce que il est évident que pendant cette période de guerre, les préoccupations n'étaient pas forcément dans le civil, mais plutôt du côté militaire. Alors, ma première question, Jean-Pierre, pouvez-vous décrire la ville de Bourges en 1914, c'est-à-dire début août, fin juillet, avant la déclaration de guerre, sa population, ses activités, son économie? Jean-Pierre, je vous écoute.
La question est simple, la réponse est plus vaste.
Ah, beaucoup plus vaste, mais c'est ça un petit peu. On ne peut pas tout dire, mais je crois que c'est important de dire un certain nombre de choses, Jean-Pierre.
En 1906, pour donner une idée, la population de Bourges était de 44 000 habitants. Elle avait augmenté puisqu'en 1851, on n'en comptait que 25 000.
Ah oui.
Donc la deuxième moitié du 19e siècle avait été une période d'expansion à la fois économique, démographique, et la ville avait construit un bon nombre d'infrastructures, le train était passé, des tramways dans la ville, on avait reconstruit un théâtre, on avait reconstruit un certain nombre d'établissements religieux d'ailleurs aussi.
C'est le Second Empire, et c'est vrai que le Second Empire est une période de croissance économique assez extraordinaire.
Ah oui, absolument. On ne s'en rend pas bien compte, mais ça a été une période d'expansion tout à fait spectaculaire. L'activité industrielle à Bourges avant 14 est centrée autour des établissements militaires et des usines de métallurgiques de Mazières. Ce sont les deux grandes activités à Bourges. Au Second Empire, Bourges avait été choisi comme siège d'un important complexe militaro-industriel. En 1864, le début de la construction d'une fonderie, d'un atelier de construction d'artillerie, puis d'études et de fabrication de produits pyrotechniques.
Oui.
En 1914, l'industrie de l'armement était centrée sur trois grands établissements et un centre d'essai. La pyrotechnie, donc l'école centrale de pyrotechnie, qui était chargée d'étudier et de fabriquer des munitions et tout ce qui tourne autour, les compositions pyrotechniques, ce qu'on appelle en termes familiers les phares et attrapes. Bon, c'est effectivement des produits dangereux. Il y avait un autre établissement qui était l'atelier de construction, la fonderie, qui s'est appelée ensuite la BES, l'atelier de construction de Bourges, et puis un entrepôt de réserve générale qui avait pour charge l'entretien et la garde du matériel pour plusieurs corps d'armée. Un corps d'armée, c'était deux divisions, c'était un peu plus de 30 000 hommes. Donc il y avait de quoi équiper peut-être 100 000 hommes à Bourges.
Donc une activité principalement sur le domaine militaire.
Sur le domaine militaire.
Domaine militaire.
Oui.
Alors si nous élargissons la question, l'économie du département du Cher, vaste question et pas forcément, je pense, évident.
Non.
Je pense que vous allez me parler de villes comme Vierzon.
Un peu, oui.
Je sais pas, mais...
Oui. Bon, il faut voir que le Cher, en 1914, c'est une région, c'est un département essentiellement agricole.
Ouais,
voilà. La base de l'économie, c'est l'élevage, la vigne, les céréales, les matières textiles, ouais. Le lin, etc. Il y a aussi une activité industrielle, notamment autour de la porcelaine, à Meun, à Foissy. À Vierzon,
voilà.
Des industries mécaniques à Vierzon, à Saint-Florent, à Rosières, de la sidérurgie dans la vallée de l'Aubois qui s'était beaucoup étiolée concurrencés par les établissements qui étaient situés près des zones de production du charbon et notamment du coke et de minerais. Le minerai qu'on trouve dans le Cher est extrêmement riche, mais très difficile à extraire. Et surtout, on travaillait, on élaborait la fonte avec du bois. C'était plus du tout économiquement viable. Donc cette industrie sidérurgique avait fait la gloire de la région depuis les Gaulois. C'était sévèrement étiolé.
Alors, justement, quelles vont être les conséquences de cette Première Guerre mondiale pour nos berruyers et berruchons?
La conséquence, c'est un peu comme partout. Hein. Les hommes sont partis en masse, appelés par la mobilisation générale. Mais dès 1915, on a commencé à faire revenir des spécialistes en masse dans les usines d'armement pour assurer la production qu'exigeaient les armées. Les femmes prennent des responsabilités dans les ateliers, mais aussi dans l'administration, dans les usines, dans l'agriculture. Comme on dit vulgairement, c'est les femmes qui font tourner la boutique.
Tout à fait. Cette Première Guerre mondiale donne-t-elle à notre département une importance dans notre pays France, ou véritablement, bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que le département joue un rôle?
Oui. Ah. Oui, je crois qu'on peut le dire. Bourges prend une importance capitale dans l'effort national. Les établissements militaires qui comptaient environ 3500 employés en 14 en avaient environ 22 000 vers la fin de la guerre. Cette masse de salariés bien payés, finalement, vis-à-vis des conditions économiques de l'époque, a contribué à un essor économique de la ville. On vivait pas bien, mais les ouvriers des établissements militaires, bien payés, ont considérablement contribué à faire augmenter le cours de la vie, également le coût des logements. Problème de logement pendant toute la guerre de 14, sachant que la population était montée à 100 000 habitants.
C'est considérable.
Ah, c'est énorme. Énorme, dans une agglomération qui était beaucoup plus restreinte qu'aujourd'hui. N'existaient pas les quartiers nord, n'existaient pas les quartiers autour du Val d'Oron, etc., etc. C'était une ville beaucoup plus restreinte.
Alors Bourges et notre département participent à la joie de la victoire. Pouvez-vous nous donner un bilan humain, économique, moral de cette épreuve, même si on pourrait passer des émissions, des heures d'émission sans véritablement...
Oui, j'allais dire, la question est vaste. Est facile, oui. La réponse est immense. Après la guerre, les réfugiés, les travailleurs partent très, très rapidement. Les établissements militaires retournent à leur état d'avant la guerre à peu de choses près. La France a partout d'énormes stocks d'armement, de munitions, jusqu'en novembre 18, nos arsenaux travaillaient à plein.
D'accord.
Et ils se sont arrêtés brutalement, ce qui fait qu'on avait partout des stocks énormes de munitions, de canons, d'artillerie, etc. Donc tout ça, ça s'arrête. Les gens rentrent chez eux. La population revient à son étiage d'avant la guerre, une quarantaine de mille habitants. Les hommes reprennent leur place dans les activités industrielles, dans la société, dans la vie économique. Les femmes retournent au foyer, sans autre reconnaissance, pratiquement, de leur effort et de leur contribution à l'effort national pendant la guerre.
Jean-Pierre, revenons à cette victoire et à cet armistice du 11 novembre 1918. Que se passe-t-il à Bourges à l'annonce de ce 11 novembre 1918, est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce qu'il y a des articles de journaux? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer l'ambiance? Parce que je pense que c'est une ambiance, une immense joie, mais aussi une profonde tristesse pour bon nombre d'en Berruyer et Berrichonnes.
Il y a eu la liesse de l'annonce de l'armistice de 1918, mais cette liesse qui a été éclatante pendant quelques jours a très vite été modérée par... Le chagrin, tant d'hommes sont restés au front, tant d'hommes sont revenus mutilés, défigurés, je pense aux gueules cassées dont on a parlé récemment à l'occasion d'un film « Bonjour là-haut », je crois, et qui ont eu un sort absolument épouvantable. Il y a eu aussi cette frustration un peu des femmes qui sont retournées au foyer, on en parlait tout à l'heure, les hommes reprenant leur place, les femmes n'ayant eu aucun avantage. On a parlé du droit de vote. Ça aurait très bien pu se faire pour les femmes, mais il s'en est fallu de peu que ce soit refusé. C'était une joie, mais une joie très, très mitigée quand même, hein, très, très nostalgique.
Que deviennent les hôpitaux et autres vont fermer? L'hôpital Baudins existe à l'époque.
Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui.
Donc Baudins va continuer à accueillir, tout le monde accueillir, à suivre les blessés de la guerre.
Ah oui, 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 bien sûr. Hein. Alors, il y a eu tout cet effort qui a été fait, ce qu'on a appelé le droit de réparation, d'une part pour indemniser toutes les familles victimes de cette guerre, les veuves, les orphelins, les mutilés, les blessés. Tout cet effort a été fortement impulsé par André Maginot, oui, qui lui-même avait, étant député, secrétaire d'État, donné sa démission pour s'engager comme sergent en 1914. Ayant servi, ayant été gravement blessé en 1915, je crois, connaissait bien ce problème des anciens combattants, des mutilés, des blessés. Et il a beaucoup contribué à cette reconnaissance de la nation envers tous ces gens.
Je rebondis sur une question que vous connaissez parfaitement, Jean-Pierre. C'est là que va se créer, je pense, l'amicale des anciens du 95e régiment d'infanterie.
Oui, en 1930.
En 1930
En avril 1930.
Et à l'initiative de qui?
À l'initiative Monin à Bourges, à Paris, toujours servant en 95, l'adjudant qui était devenu lieutenant, qui a crié cet encouragement de ces hommes debout les morts.
Notre ami Péricard.
Oui, Jacques Péricard.
Jacques Péricard.
Jacques Péricard.
Mais simplement, c'est là que va débuter l'amiquet du 95e mairie.
Oui.
Et ils sont très nombreux au départ.
Peut-être un ou deux milliers. Ah oui, il y a des sections à Paris, il y en a à Bourges, il y en a un peu partout. Il y en a, je crois, en Charente, il y en a à Limoges, je crois. Enfin, il y a des sections, ouais, un peu
alors
partout.
Justement, alors cet amical du 95e régiment d'infanterie, que vous connaissez bien et que je connais bien aussi, c'est une des particularités. Elle a été créée en 1930, nous sommes en 2017, et elle reste toujours active.
Oui.
Et ça, je crois qu'il faut le dire, que dans notre ville de Bourges, dans le département du Cher, le 95e régiment d'infanterie, l'amicale du 95e régiment d'infanterie, reste très, très bien implanté et avec des adhérents, hein, et toute une communauté militaire qui reste très, très attachée à ce régiment.
C'est d'autant plus remarquable que le régiment n'existe plus depuis 1988, je pense, oui. Qu'une amicale régimentaire subsiste 30 ans après la fin de ce régiment. C'est tout à fait remarquable.
C'est quand même assez extraordinaire,
oui,
je trouve.
Oui, oui.
Hein, et ça montre aussi l'attachement profond, et je me répète, mais j'ai ce sentiment là, moi, Berrichon, hein, de cet attachement très fort, profond à ce régiment du 95e régiment d'infanterie. Il y a une rue bien connue, hein, la rue du 95e régiment d'infanterie, et il y a nombre de familles ont été touchées dans leur vie, hein, malheureusement pour la disparition d'hommes.
Il y a d'autres lieux, par exemple, oui, le boulevard de Sarrebourg.
C'est ça.
Fait directement allusion au combat du 95e RI en août 14 à Sarrebourg.
Merci à vous, Jean-Pierre. Merci pour ces explications passionnantes qui laissent, comme je l'ai dit, entrevoir nombre d'autres sujets. Nous avons commencé avec l'amicale du 95e RI, hein, sur cette Première Guerre mondiale et ses conséquences. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices du Berry se raconte avec Agora Défense, et bonne fin de journée à vous. Et encore merci, Jean-Pierre.